finis et s'étendent les grands prés marécages. Pas un seul oiseau ne chante sur ces arbres secs et creux.
Plus de 5 millions de Juifs de toute l'Europe ont été exterminés selon un plan organisé par les nazis entre 1933, date d'arrivée au pouvoir d'Hitler en Allemagne, et la libération des camps en 1945.
3 millions d'entre eux sont morts dans les camps d'extermination, 1 million à Auschwitz. En Pologne, 90% de la population juive, soit 3 millions de personnes, ont été assassinées. En France, 25% de la population de confession juive, soit 75 000 personnes, dont 11 000 enfants. Et cela, avec la participation active du régime de Vichy.
Auschwitz-Birkenau tient une place centrale dans le dispositif de la solution finale organisé par les nazis à la conférence de Wannsee le 20 janvier 1942. 11 millions de juifs d'Europe doivent être exterminés.
1 300 000 déportés seront conduits à Auschwitz. 900 000 ne seront jamais enregistrés et conduits directement dans les chambres à gaz. Sur les 400 000 enregistrés au camp et détenus, la moitié d'entre eux mourront avant la libération. L'énumération des chiffres fait frémir.
Cependant, elle ne peut suffire. Elle informe sur l'ampleur de la Shoah mais n'explique pas. Or, il nous apparaît capital d'apporter deux autres regards.
D'abord, celui qui analyse les causes, les circonstances, les volontés politiques et les immondes théories racistes et antisémites à la base de cette extermination, idéologiquement, politiquement et industriellement planifiée.
Ensuite, celui qui cherche à mettre un visage, une identité, une vie, une histoire sur chacune des victimes. Hommes, femmes, enfants.
C'est avec ce regard-là que nous avons choisi de vous proposer sur Fréquence Sillée une nouvelle série d'émissions sur la Shoah. On y parlera des enfants, de l'expression par le roman ou le cinéma et de l'entreprise de déshumanisation.
Nous sommes lycéens de première L et terminale L au lycée Paul Scarron.
Aujourd'hui, les enfants cachés.
Nous allons évoquer les enfants juifs cachés durant la guerre. Tout un système fut mis en place pour les sauver des nazis.
Des hommes et des femmes ont pris des gros risques pour les protéger. Certains ont acquis le titre de juste.
C'est pour vous faire connaître cette histoire que nous avons invité Raphaël Delpart.
Raphaël Delpart, bonjour. Écrivain, historien, documentariste, romancier. Vous avez beaucoup travaillé sur le sort des juifs en France pendant la guerre. Votre livre « Les enfants cachés » paru en 1993 fait référence. Mais vous avez continué votre travail. Vous venez nous en parler et nous vous en remercions.
Raphaël Delpart, pourquoi avez-vous eu l'idée de réaliser un film sur les enfants cachés et d'où vous vient cet intérêt pour les enfants cachés?
Alors, d'abord, l'intérêt est né du rassemblement qui a eu lieu à New York en 1991. Jusqu'à là, j'ignorais ce que c'était que les enfants cachés. Je n'ignorais pas qu'il y avait eu des enfants juifs qui avaient été contraints de se cacher ou d'être cachés ou de se cacher eux-mêmes. Mais j'ignorais l'importance, en tous les cas, de cette page d'histoire. Et un jour, j'ai lu une information très brève dans le journal Le Monde qui disait que il allait se tenir à New York le premier rassemblement mondial des enfants ayant été cachés pendant la Seconde Guerre mondiale. Et donc, j'ai eu un choc et je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Il y avait un numéro de téléphone de la délégation française. J'ai appelé à ce numéro de téléphone. J'ai vu la personne, Ruth Croiteru, qui est devenue une amie. Et elle m'a expliqué un peu ce que c'était que les enfants cachés. Et là, ça a été, le choc a continué d'augmenter en moi. Et là, j'ai fait le tour des chaînes de télévision parce que mon idée au départ, c'était évidemment de faire un documentaire. Partout, les chaînes de télévision m'ont fichu dehors en disant la Deuxième Guerre mondiale, etc. Nous en avons suffisamment parlé. Donc, j'ai décidé d'aller à ce rassemblement à New York. Ça a été un choc fantastique pour moi parce que là, j'ai rencontré des femmes et des hommes qui avaient été cachés, qui avaient vécu dans des conditions d'isolement, d'esseulement, de silence dans leur propre tête et tous les traumatismes que cela peut engendrer. Et donc, en rentrant j'ai parlé, à nouveau, j'ai refait le tour des chaînes de télévision en disant il faut absolument faire quelque chose, il faut faire quelque chose. C'est un sujet immense, peu connu sur la Deuxième Guerre mondiale. À nouveau, on m'a fichu dehors. Et là, c'est à ce moment-là, j'avais une amie qui était chez Hachette, qui m'a dit, mais Raphaël, pourquoi vous avez écrit des scénarios de films, des pièces de théâtre, etc., etc., etc. Pourquoi est-ce que vous n'écrivez pas un livre? Pourquoi ne faites pas un livre? Je n'avais même pas eu l'idée. Et on a fait le tour de... Nous sommes allés voir deux éditeurs, Stock et Jean-Claude Lattès. Et Jean-Claude Lattès a accepté immédiatement de faire ce livre. Et donc, c'est la réponse à votre question en ce qui concerne le livre. En ce qui concerne le choc, en tous les cas, et la raison de ma démarche. Alors, bien sûr, derrière cette démarche, il y a pour moi les droits de l'homme. Il y a pour moi le sort de l'enfant. On s'aperçoit que dans l'histoire des guerres, l'enfant est toujours, l'enfant et les femmes, les enfants et les femmes, sont toujours les premières victimes. Donc il y a aussi, à travers mon travail, une dénonciation de cette situation. Quant au film, je suis cinéaste, je vous l'ai dit, et j'ai collaboré à beaucoup de scénarios de films, j'ai écrit, produit, réalisé 7 ou 8 longs métrages, des films de fiction pour la télévision. Donc l'image est quelque chose de naturel chez moi. Et puis surtout, dans des sujets comme de ce genre, l'image véhicule mieux qu'un livre. Un livre, il faut le traduire, il y a tout un processus qui est beaucoup plus complexe qu'avec l'image. Et l'image, j'en ai encore eu l'exemple, puisque je reviens de New York, où j'ai présenté l'un de mes films sur le rôle de la SNCF dans l'organisation des convois de déportés raciaux et politiques. Et j'ai pu voir à quel point l'image est porteuse du message et porteuse d'une émotion, et surtout qu'elle peut atteindre tous les publics. Il n'y a pas de barrage, même s'il y a un barrage linguistique, il y a ce qu'on appelle les voix off ou des sous-titres, mais il n'y a pas de barrage comme il peut y en avoir par rapport à un livre.
Pourquoi votre intérêt pour la Sarthe en particulier ?
Alors, mon intérêt pour la Sarthe vient du fait que mes parents, mon père était un petit industriel. Nous habitions 41 bis rue Bafroy, dans le 11e arrondissement. Et mon père travaillait avec... il avait une petite usine de tissage, de tissu, donc. Et il travaillait avec une population juive. Et donc, il s'est mobilisé très, très, très tôt, dès 40, enfin, dès la débâcle. Il s'est mobilisé très tôt, d'autant que son bureau, ses affaires, 11e arrondissement, pour vous, ça ne vous dit rien, mais c'était la rue Sedaine, la rue Bafroy, la rue, etc., la rue Popincourt. Ce sont des rues un peu comme le sentier, ce qu'on appelle le sentier, c'est-à-dire où il y avait beaucoup de magasins juifs. Et ma mère, elle, se faisait de la résistance en cachant des aviateurs anglais, etc. Mon père a été arrêté en 42, sur dénonciation, bien sûr. Et puis, il a été en prison. Et ma mère a été arrêtée en 43. Et à ce moment-là, le réseau de résistance auquel il collaborait est venu me chercher. J'étais le seul enfant. Est venu me chercher et m'a envoyé dans une cachette. Et il s'est trouvé que la cachette, c'était Parigny-l'Évêque, dans la Sarthe. Donc, d'où mon attachement à cette région. Je suis un Sartois d'adoption et je défends la Sarthe partout où je vais parce que, comme je vous l'ai dit après la présentation du film, c'est un des grands départements qui a été solidaire de tous les réfugiés, quelles que soient leurs origines.
Seinen sich zerflogen, tragen Marev, tragen Midrach, die Rer, kem Dorem, die Bange los allein, efker fam dem Sturem. So it zu dem Mame Herr, soll mir noch nicht stern, weil ich Mami ein und zwei, bald Vogel wern. Ihr will sitzen auf den Bäumen und wenn im Vaginen, über Witter mit der Trist,
Comment avez-vous fait et combien de temps a-t-il fallu pour rassembler les sources, les informations et surtout les témoins ?
Bah, le film, c'était assez facile puisque j'avais fait le livre avant. Alors, le film, je l'ai tourné en 2 mois, y compris la partie qui se passe à New York. Je l'ai tourné en 2 mois D'une part, parce que, comme je viens de vous le dire, j'avais les témoins, j'avais donc pas de recherche de témoins à faire. L'iconographie, elle était simple, puisque les enfants cachés ne se photographiaient pas, ne faisaient pas de films sur les enfants cachés. J'ai trouvé des archives et j'ai fait ce qu'on appelle, et peut-être que vous allez m'en parler, j'ai fait ce qu'on appelle les évocations. Donc, ce ne sont pas des réconstitutions, ce sont des évocations. Parce que moi, je suis très influencé par les documentaires anglais, qui sont pour moi les meilleurs documentaires au monde, où beaucoup les Anglais, les réalisateurs anglais, font ce qu'on appelle des évocations, parce que l'évocation, c'est un matériau extrêmement fort qui permet de faire comprendre en quelques secondes, par l'image, encore une fois, plus que par les mots.
Alors, qui était caché? C'était des enfants, des familles? Et pouvez-vous nous rappeler pourquoi et à partir de quand les enfants ont dû être cachés?
Alors, dans votre question, il y a deux questions. La première, à partir de... Je vais commencer par la deuxième partie, c'est-à-dire à partir véritablement, bien sûr, au moment où les armées nazies entrent en France. Hein, c'est-à-dire en mai 40, ils arrivent par la Belgique, le Luxembourg, la France. La communauté juive était composée, évidemment, d'associations et de différents mouvements. Et très vite... Par exemple, vous aviez un réseau qui s'appelait le réseau de la rue Amelot, dans le 11e arrondissement. Un homme, David Rapoport, un homme admirable, qui a été déporté d'ailleurs et gazé. Et ces gens-là, lui et d'autres, ont compris très vite, si vous voulez, dans la survie du peuple juif, quand on un peu étudié l'histoire du peuple juif, on s'aperçoit que le peuple juif, la première chose qu'il a toujours fait, dans tous les conflits où il s'est trouvé, confronté, c'est-à-dire dans les pogroms, à l'époque pogromiste, eh bien, c'est de préserver les enfants. Parce que les enfants, c'est l'avenir, naturellement. Alors que les nazis, évidemment, à partir, surtout en France, à partir de juillet 42, ont voulu détruire les enfants, puisque les enfants, c'est l'avenir. Et donc, si on laisse les enfants juifs vivre, eh bien, c'est de nouveaux juifs qui vont devenir des adultes. Donc, on peut dire que, véritablement, la résistance en ce qui concerne les enfants, en France, a commencé dès juin 40. Juin 40, déjà, les familles juives qui venaient, qui s'étaient installées, qui étaient venues en France, venant de Pologne, de Russie, de Tchécoslovaquie, etc., de Roumanie, savaient ce que ça veut dire, avaient une idée, en tous les cas, pas une idée de la finalité, bien sûr, mais avaient une idée de ce que veut dire le nazisme, etc. N'oubliez pas que c'est une population aussi qui était très communiste, très à gauche, bundiste même. Et donc, de ce fait, ils savaient tout cela. Donc, tout de suite, ils ont réagi en essayant de planquer leurs enfants. Voilà, de planquer les enfants. Donc, on peut dire, pour répondre brièvement à votre question, mai-juin 40, véritablement, la résistance s'organise pour cacher les enfants. Les parents, les adultes vont venir après, hein. Mais en tous les cas, on peut dire mai-juin 40, oui. Alors, qui était caché? Les enfants. Pas les nourrissons au début, après les nourrissons, oui, mais pas au début. D'abord, les enfants en âge de marcher, en âge de se mouvoir, non pas d'être autonomes, mais en tout cas de se mouvoir, parce que emmener les enfants comme ça, c'était un peu compliqué. Souvent, certains ont voyagé de ces enfants dans des conditions difficiles, mais c'était aussi leur condition de survie, ne serait-ce que dans les tenders des locomotives, c'est-à-dire dans la partie où je parle des locomotives à vapeur, s'entend, où on met l'eau, etc. Alors, qui était caché? C'était ces enfants juifs qui étaient cachés, toute origine juive confondue, encore une fois. Votre question est difficile à répondre, parce que qui s'était caché? Les enfants, quoi. Que ce soit les bourgeois ou les ouvriers, les familles ont eu la même réaction.
Les enfants de la Shoah sont restés seuls sur le quai, dans la souffrance et l'effroi, quand des germains s'élissaient. Orphelins dans l'innocence, nés de parents étoilés, on leur a volé l'enfance au nom d'une croix gammée.
Qui abritait les enfants cachés et était-ce volontairement ou parfois par intérêt était-il payé?
Alors, oui, c'est intéressant comme question. Effectivement, les familles C'est surtout à partir de 1942 que véritablement les portes sont ouvertes. Avant aussi, bien sûr. Mais n'oubliez pas que les premières déportations sont de février-mars 41. Hein. Je ne parle pas des arrestations, je parle des premières déportations. Donc c'est vrai que là, lorsque les Français ont vu qu'on arrêtait les enfants, ça a été insupportable pour eux. Et que les réseaux chrétiens, protestants, catholiques, évangéliques, ça existait probablement, mais moins qu'aujourd'hui, se sont mobilisés. Et des jeunes filles, qu'elles fussent juives, protestantes ou catholiques, ou laïques d'ailleurs, bien sûr, communistes, allaient dans les provinces et cherchaient des planques pour ces enfants. En ce qui concerne, vous avez posé la question, en ce qui concerne ceux qui acceptaient ces enfants, d'abord, beaucoup d'entre eux l'acceptaient par humanisme, même si peut-être s'en est-il trouvé, et il s'en est trouvé, bien sûr. Rappelez-vous ce film admirable de Claude Berry qui s'appelait Le vieil homme et l'enfant, vous ne l'avez peut-être pas vu, parce que c'est un film par rapport à vous qui est, il y a quelques années, où justement Michel Simon joue un paysan atrabilaire, pétainiste, antisémite, etc., et qui cache cet enfant juif parce qu'il ne peut pas supporter que cet enfant soit livré au bourreau. Et dans le film Les enfants cachés, vous avez à un moment donné un témoin qui dit que la famille, enfin le couple qui l'ont recueilli, détestait les juifs, détestait encore plus les Allemands, enfin les nazis s'entend. Donc partant de là, il est caché. Alors c'est vrai aussi qu'il y a des familles, car ces familles, parfois, pas toujours, il y a des cas tout à fait extraordinaires, touchaient un peu d'argent. On ne va pas donner le chiffre, parce que le chiffre n'a plus aucun sens aujourd'hui. C'était 500 francs, qu'est-ce que ça représente aujourd'hui? 700 francs, qu'est-ce que ça représente? Des francs de 1940, oui, je ne sais même pas, je serais incapable, moi, de faire un calcul en tous les cas. C'est vrai qu'aussi, dans les campagnes, il ne faut pas se le cacher, c'était un moyen d'arranger l'ordinaire, de mettre du beurre dans les épinards, comme on dit. Mais si je prends mon cas, moi, qui n'avait rien à voir avec les enfants juifs cachés, c'est que lorsque mes parents ont été libérés, quand ma mère était sortie de prison et mon père aussi, pendant tout ce temps-là, c'est-à-dire jusqu'en 46, personne ne savait quoi que ce soit de moi, enfin de ma famille. Et les gens, les deux femmes, la mère et la fille qui m'ont recueilli, m'ont nourri, logé, habillé, sans jamais demander à qui que ce soit, et à qui aurait-elle pu demander, même pas au réseau, puisque le réseau, elle savait pas où il était, ce réseau. Donc ce sont des gens qui aussi l'ont fait par humanisme, par esprit républicain, par chrétienté, tout simplement en tant qu'être humain. Voilà.
Combien y a-t-il eu d'enfants cachés en Sarthe et plus généralement en France?
Ah, alors ça, c'est toujours la question. C'est, dans les débats publics, c'est la question du prix de la baguette qu'on pose toujours aux députés et qui ne sait jamais. Bon, là, c'est un cas, évidemment. Il y a eu, grosso modo, 30 000 enfants qui ont été cachés en France. Sur les 30 000, il y en a eu 11 000 qui ont été déportés. Alors, dans les 30 000, sur les 11 000, pardon, il y a eu une partie qui sont venues des 30 000, puisque, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a eu malheureusement cette rafle ici en Sarthe, où il y a eu 142 personnes qui ont été arrêtées et déportées à Angers par le convoi numéro 8. Mais il est évident que les autres enfants qui ont été arrêtés ont été arrêtés, en dehors de ces 30 000. Enfin, donc, le calcul est très difficile à faire. Je vous l'ai dit tout à l'heure et je le redis maintenant. Vous savez, c'est une résistance, qu'elle fût communiste, chrétienne, juive, protestante, etc., qui s'est faite comme ça, au déboté, qui s'est faite avec des gens de bonne volonté. C'était structuré, bien sûr, sinon c'était dangereux. Mais en tous les cas, c'était pas hyper organisé. Et je disais ce matin que, en 1978, j'ai assisté à une conférence à la Sorbonne de Garel, qui est Garel, qui était le grand patron de la résistance de l'OSE, œuvre de secours aux enfants, qui était une organisation juive qui a été créée en 1912 en Russie, à Moscou. Et il disait que si la guerre avait s'était poursuivie un an de plus, ils auraient perdu des enfants. C'est-à-dire qu'à un moment donné, car malheureusement il y a eu de ces jeunes filles ou de ces jeunes hommes qui allaient chercher des cachettes, qui ont été arrêtés, qui ont été déportés. Et donc, eux avaient planqué les listes des enfants qu'ils cachaient. Mais les autres, leurs camarades, quand ils se croisaient, ils ne se donnaient pas les listes. Pour pas que le réseau tombe, si jamais l'un d'entre eux était arrêté. Et donc, de ce fait, on aurait pu parfaitement imaginer que des enfants ont disparu. Et je pense d'ailleurs, moi, qu'il y a des enfants juifs, entre guillemets, qui ont disparu, c'est-à-dire qui ont été récupérés par des familles. Alors, je parle d'enfants qui étaient des bébés, bien entendu, puisque à partir d'un certain âge, quand même, on sait grosso modo quelle est son identité. Mais des enfants qui étaient des bébés, ou des nourrissons, enfin, donc c'est pareil, ont été absorbés, si je puis m'exprimer ainsi, par les familles. Et il y a dans le monde, aujourd'hui, des femmes et des hommes qui ne savent pas qu'ils sont d'origine juive.
Quels étaient les meilleurs endroits pour cacher les enfants juifs ?
Le meilleur endroit, c'était une famille, alors nous sommes en Sarthe ou dans d'autres régions, une famille paysanne, j'allais dire normale, et l'enfant qui était caché, ou les enfants, parce que parfois dans la même famille, il y avait plusieurs enfants cachés, et les enfants cachés entre eux ne savaient pas qu'ils étaient cachés. C'est tout à fait extraordinaire, cette page d'histoire. Il faut savoir que c'est seulement à la fin de la guerre, et même beaucoup plus tard, quand ils avaient 12 ou 15 ans, qu'ils se sont retrouvés les uns et les autres, qu'ils se sont aperçus qu'ils étaient cachés au même endroit, dans la même famille, ben, ils le savaient, mais ils ne savaient pas qu'ils étaient juifs. Parce qu'ils étaient cachés dans leur tête. Ils ne parlaient jamais ni le yiddish, ni le judéo-espagnol, ni aucune rien qui pouvait les identifier. Mais le drame, c'était ce que je raconte dans L'Enfant sans étoile. Le drame, c'est que si l'enfant n'était pas inscrit au catéchisme, là, à ce moment-là, la dénonciation était possible. Et donc, qu'est-ce que c'était la meilleure famille ? Une bonne famille, sartoise, en campagne, avec des vaches, avec des moutons, avec du purin, avec la vie, quoi. Et puis l'enfant, le garçon ou la fille, c'était le neveu, le petit neveu d'un frère, d'un demi-frère, d'un quart de frère, etc., qui habitait, dont les voisins n'avaient jamais entendu parler. Mais les voisins sentaient, comprenaient plus exactement que c'était un enfant caché et qu'il fallait certainement pas dire quoi que ce soit. Il y a eu hélas des dénonciations. Les hommes sont les hommes.
Qui décidait d'envoyer des enfants à la campagne ?
Ben, les assistantes sociales, c'était quand même plus facile de cacher ces enfants, de les éparpiller dans le monde, j'allais dire, non-juif, dans le monde chrétien, ou dans le monde communiste, enfin, dans le monde non-juif en tous les cas, et ces jeunes filles. Alors, il faut aussi rendre hommage à ces jeunes filles, car c'était souvent des jeunes filles qui le faisaient, qui cherchaient des cachettes. Elles cherchaient les cachettes. Une fois qu'elles étaient assurées d'avoir soit aidées par le maire, soit aidées par le curé, soit aidées par l'évêque, soit aidées par le pasteur quand il y avait un pasteur, soit aidées par des habitants aussi, bien sûr, eh bien, quand elles étaient assurées, à ce moment-là, elles allaient chercher les enfants. Et elles les livraient. Elles les livraient elles-mêmes. Elles les livraient comment ? Sur son vélo. Elles mettaient un enfant devant, un enfant derrière, et elles faisaient autant de trajets qu'il le fallait pour livrer dans chaque famille dont les enfants dont elles avaient la garde, qui faisaient partie de leur réseau à elles, elles allaient le livrer à chaque famille.
Comment les enfants vivaient-ils ce déracinement et avaient-ils des contacts avec leur famille ?
Aucun contact. Aucun contact. Il est bien évident, comprenez bien, que si l'enfant écrivait une carte postale à papa et maman, en disant « je vais bien, je mange bien, je grossis bien, j'ai de bonnes joues », Compte tenu de la censure qui sévissait dans les postes, les parents étaient immédiatement repérés et immédiatement arrêtés et envoyés dans les camps d'extermination. Ça, c'est évident. Aucun contact. Et là, vous soulevez une question qui est importante et humainement très, très difficile. Je vais essayer de faire court. Lorsqu'en 1943, les Allemands, enfin les nazis, réclament de plus en plus de juifs à déporter, malgré la zone, enfin la zone libre n'est plus libre puisqu'elle a été envahie en décembre 1942. En 1943, donc, les préfets sont chargés de ramasser des juifs, d'où l'histoire Papon, de dresser des listes de juifs à déporter. Dans le sud de la France, on ramasse des juifs et on les achemine, 1000 personnes, on les achemine à Lyon, dans une annexe de la gare qui va servir de camp. Et là, la résistance, dans le sang, avec un grand R majuscule, la résistance juive, la résistance communiste, la résistance chrétienne, la résistance protestante, donc chrétienne dans les deux grandes familles, apprenant cela, décide de faire le maximum pour sauver les enfants. La résistance communiste, donc, ils se mettent d'accord. Un jour précis, ils viennent aux abords de cette partie de la gare qui est devenue un camp. Ils amènent des autocars et la résistance communiste ferme les lumières à minuit précise. Et à ce moment-là, toutes les jeunes femmes, les jeunes hommes fondent littéralement dans le camp et, écoutez bien, arrachent les enfants des bras des mères et des pères, des parents, écrivent rapidement le nom, quand ils le peuvent, sur un bout de papier, et se sauvent. Vous imaginez le courage de ces parents qui, comprenant, bien sûr, que c'était pour sauver leur enfant, qui donnent leur enfant, comme vous l'avez peut-être vu dans le film aussi, le dit à un moment donné un des témoins, c'est quelque chose de terrible. Est-ce qu'ils le reverraient, leur enfant? Hélas, non. Ils l'ont jamais revu. Et l'enfant n'a jamais revu ses parents. C'est une page d'histoire, là aussi, parce qu'il faut rendre hommage, il faut arrêter les polémiques, il faut rendre hommage à cette France qui a su se lever face à la barbarie. Et notamment, par rapport à votre question, c'est vrai que c'était terrible d'imaginer ces enfants enlevés, entre guillemets, pour leur bien, bien sûr, des bras de leur mère ou de leur père, enfin de leurs parents.
Alors, qu'arrivait-il en cas de dénonciation et d'arrestation aux enfants découverts aux familles d'accueil? En cas d'arrestation, étaient-ils toujours déportés? Et y avait-il des camps d'enfants spéciaux?
Attendez, dans votre question, il y a d'abord les dénonciations. Le convoi numéro 8 que nous avons suffisamment évoqué, enfin que nous avons beaucoup évoqué, c'est sur dénonciation. Hein. C'est évident. Il y avait Ernst, qui était un gestapiste épouvantable, monstrueux, qui était le chef de la Gestapo d'Angers et d'une partie de la Sarthe. Mais, et aussi, comme vous l'avez peut-être vu dans le film, je ne sais pas si vous avez été sensible à ce passage-là, c'est qu'à un moment donné, malgré le courage de ces familles qui avaient accepté de cacher les enfants, il y a eu aussi la peur qui s'est emparée d'eux à un moment donné, et qu'il est arrivé, que des familles dénoncent le propre enfant pour se protéger elles-mêmes. Je n'ai pas de chiffres. Nous n'avons pas de chiffres là-dessus. Mais évidemment, nous le savons, puisqu'il y a des témoignages. Donc, les familles qui cachaient des enfants, qui cachaient des adultes aussi, lorsqu'elles étaient arrêtées, elles étaient fusillées sur le champ, pour la majorité d'entre elles, ou déportées en camp de travail, tout simplement, pas déportés dans les camps d'extermination, mais déportés dans les camps de travail, puisqu'il faut faire un distinguo entre les camps d'extermination et les camps d'internement. Les enfants arrêtés étaient gazés, emmenés à Auschwitz, soit à Treblinka, ou à Dora, gazés. Les familles qui cachaient les enfants, soit elles étaient fusillées sur place, soit elles étaient déportées dans des camps de travail.
Et y avait-il des camps d'enfants spéciaux ?
Non, il n'y a jamais eu... Beaune-la-Rolande, on peut estimer, on pourrait dire, répondre à votre question, que oui, Beaune-la-Rolande a été à un moment donné, qui a eu beaucoup d'enfants dans le Loiret, a eu beaucoup d'enfants du fait de la rafle du 16 et 17 juillet 1942, où il s'est quand même trouvé 4000 enfants qui ont été déportés. Donc une partie de ces 4000 enfants ont été internés à Beaune-la-Rolande. Mais il n'y a pas de camp spécifique d'enfants. Je me souviens de débats avec des gens qui, hélas, ne connaissaient pas le dossier, ou ne voulaient pas le connaître en tous les cas, et qui me disaient « Mais dans les camps, il y avait une garderie d'enfants ?» Et je me souviens d'une femme à laquelle j'étais obligé presque d'être vulgaire et de dire « Madame, les enfants, comme je raconte dans le film, les enfants arrivaient à Auschwitz, ils étaient déshabillés car les vêtements servaient aux soldats allemands qui combattaient sur le front de l'Est. Et ils étaient soit jetés dans un brasier, soit ils allaient directement dans la chambre à gaz. Et après, c'était le four crématoire. Les enfants, à part dans le film, dans la bande d'actualité que je montre dans mon film, sont les enfants juifs polonais qui sont tatoués, alors qu'on ne tatouait plus à ce moment-là à Auschwitz, mais qui ont été tatoués malgré tout et qui ont échappé, mais c'était fin 44, quoi.
L'image de désespoir de ces wagons plombés, gravés dans la mémoire des jeunes rescapés. Petit témoin tremblant, à jamais écorché, arraché aux parents, partant pour les charniers. Épargné dans l'urgence, à Drancy ou ailleurs ont-ils eu de la chance dans leur profond malheur?
Comment cacher son nom et le fait d'être juif? Comment se comportait l'environnement, l'école, les mairies, les gendarmeries ou bien les voisins?
Alors là, c'est une énorme question. Là. C'est une énorme question. Alors, dans votre question, il y a plusieurs aspects. D'abord, je vous rappelle que les lois, il y a eu deux types de lois. Il y a les lois de 1940 et les lois de 1942. La loi de 1942 est celle qui oblige, contraint les Juifs à avoir un signe distinctif qu'on appelait l'étoile. Ouais. Mmh. Les Juifs devaient la porter et en tout lieu, bien entendu. Sur leur papier d'identité, il y avait aussi un tampon. En revanche, pendant toute la période de ce qu'on appelait la zone libre, vous savez que la France était séparée en deux zones. Il y avait la zone nord, la zone du sud, qui était la zone dite la zone nono, la zone libre. Il est vrai que pendant jusqu'en décembre 42, il est vrai que les Juifs qui étaient dans la zone sud ne portaient pas l'étoile. Vichy n'avait pas du tout exigé cela. En revanche, il a quand même exigé que sur la carte d'identité, il y ait le tampon marqué « juif ». Je crois que le film là-dessus est très clair, m'a-t-il semblé, ou me semble-t-il, où les témoins expliquent l'angoisse, la honte, l'humiliation de ce que pouvait représenter ce signe distinctif qui les distinguait comme étant du bétail à tuer devant leurs petits camarades. Donc, toutes les gammes de l'humiliation y sont passées. Donc, alors, c'est vrai qu'on a souvent posé cette question-là. Il y avait la loi de Vichy, qui obligeait les Juifs de se faire inscrire au commissariat en tant que Juifs et de recevoir en contrepartie de leur inscription cette étoile qu'ils devaient coudre sur leurs vêtements, sur tous leurs vêtements. Peut-être pour l'anecdote, je rappelle que c'est une société française qui fabriquait l'étoile jaune, hein, et que cette société a existé jusqu'à il y a très peu de temps et qu'elle n'a jamais été inquiétée. C'est un autre débat. Et ensuite, alors, c'est vrai que la question qu'on me pose souvent et qu'on pose à tous les historiens, c'est que pourquoi le juif a-t-il été se faire inscrire? Pourquoi a-t-il été dire, voilà, bonjour monsieur le commissaire, je suis juif, etc. Et ça fait partie de sa mentalité. C'est un légaliste. Je ne fais pas de prosélytisme en ce qui concerne le judaïsme ici à cette émission. Il m'est arrivé, participant à des cérémonies, d'aller dans les synagogues et de m'apercevoir que on remercie toujours, à la fin de la cérémonie, on remercie toujours le président de la République. Même à l'époque pogromiste en Russie, les Juifs remerciaient le tsar, alors que le tsar les poursuivait pour les exterminer. Donc c'est cette partie sur laquelle il n'y a pas de réponse. C'est une attitude humaine. Les Juifs dont on parle, ce sont des Juifs, pour la majorité d'entre eux, c'est ce qu'on appelait les Juifs étrangers, c'est-à-dire les Juifs dont les familles étaient arrivées dans les années 20, qui venaient de l'Est, encore une fois, sous beaucoup de communistes, de bundistes, très légalistes, très « la loi, c'est la loi », donc on se conforme à la loi. Mais je n'ai pas d'autres informations à vous donner là-dessus.
Comment ça se passait entre les enfants de la famille et les réfugiés ?
Alors, ça, c'est une question très émouvante. Beaucoup, ça c'est... Bon, il y a eu malheureusement des cas difficiles où les enfants ont été exploités comme main-d'œuvre, où l'argent que les pères nourriciers, la famille nourricière recevait était détourné, où l'enfant était mal nourri. Bon, il y a eu des cas, bien entendu. Mais la relation entre l'enfant caché et les enfants de la famille nourricière était une relation de frères et sœurs. Et aujourd'hui, ces enfants cachés, vis-à-vis de leur des enfants de la famille nourricière, continuent de les indiquer, de leur parler comme en disant mon frère et ma sœur. De la même manière que bien souvent il y avait un grand-père ou une grand-mère dans la famille nourricière, faisant partie de la famille nourricière, et que comme ces enfants étaient privés de leur famille et de leur grand-père ou de leur grand-mère qu'ils n'avaient pas connu ou qui étaient déportés, souvent, les grands-pères et les grands-mères devenaient leurs grands-pères et leurs grands-mères, et encore aujourd'hui, ils l'appellent Pépé et Mémé.
Quel est le profil type du dénonciateur ?
Ah, le profil type ? C'est un con, d'abord. Et un salopard. Et un anti-français. Alors, là, la gamme est très large. Dans les campagnes, ça pouvait être le paysan qui s'étant aperçu que le petit-neveu qui était là depuis juillet 42... curieusement, très bouclé, très brun, par rapport à une famille qui était blond, pouvait faire tâche, si je puis dire, et que le poirier, les branches du poirier dépassaient de l'autre côté du mur, pouvait parfaitement aller dénoncer l'enfant. Ce sont des situations qui ont malheureusement existé. Je vous ai cité plusieurs fois le fait que les dénonciations pouvaient être aussi pour des histoires... de catéchisme, c'est-à-dire que l'enfant était repéré comme n'allant pas au catéchisme et était à ce moment-là la cible du dénonciateur potentiel. Et le dénonciateur potentiel, ça pouvait être, il avait été peut-être approché par la Gestapo, par un gestapiste français, car il ne faut pas... la Gestapo, il y avait deux branches, il y avait la branche allemande, c'est-à-dire nazie, et puis il y avait des gestapistes français, qui étaient souvent des très jeunes gens. Hein, qui faisait beau auprès des filles, qui portait beau, qui a beau costume, le stick, qui gagnait de l'argent, qui roulait dans des voitures, etc. Et eux étaient évidemment à l'affût de dans les campagnes, connaissant les familles, étaient à l'affût.
Rufin weg, städter Bäum, städter Ram, Gebäum, Alfangel von einem Boy, seinen sich zerflogen. Tragen mein Rev, tragen mein Dreher, die Rer, kein Dorem, die Bange, los allein, Efker Femme, dem Sturem. So ich zu dem Mame Herr, soll mich noch nicht stern, weil ich Mame, ein und zwei, bald Vogel wern. Ich will sitzen auf den Bäumen und wählen Vaginen, über wieder mit der Trist, mit der Scheine liegen.
Qui savait vraiment dans les années 42 à 44 ce qui pouvait arriver aux enfants juifs arrêtés ? Pouvait-on imaginer Auschwitz ?
Non, personne. Personne ne pouvait... Personne, je défie. Je parle parmi la population. Je parle pas en ce qui concerne les dirigeants. Je parle pas de Gaulle. Je parle pas de Roosevelt. Je parle pas de Staline. Eux savaient. Eux avaient des informations. Et si un jour vous voyez mon film sur la SNCF, vous verrez les documents que je montre, vous voyez les témoins que j'interroge, etc. Mais dans le peuple, personne ne pouvait dire ou n'aurait pu dire quelle était la finalité de ces trains qui partaient. La seule inquiétude, la seule interrogation plutôt, inquiétude bien sûr, mais la seule interrogation c'était de dire, voyons, ces gens-là partent, vous êtes voisins à Paris, à Lyon, à Marseille, à Strasbourg, à Nancy, de voisins, vous savez qu'ils sont juifs pendant des années, vos enfants ou vous-même vous avez joué avec les enfants là, et puis un jour ils sont arrêtés, un jour ils disparaissent, et ils ne reviennent plus jamais. Ils ne reviennent plus jamais. Il y a des questions qu'on se pose. Mais ils ne reviennent plus jamais. Où sont-ils allés ? Pas l'interrogation. Et que sont-ils devenus, surtout ? Alors là, c'était l'inconnu total. Il faut être clair et honnête. Le monde a véritablement appris l'horreur en 1945. En 1945, là, le monde a su ce qu'était le crime nazi.
Quelles sont les régions qui ont été exemplaires dans cette solidarité ?
La Sarthe, l'Orne, la Mayenne et la Creuse. La Creuse est un département, on ne sait pas pourquoi, on n'a pas de raison, on n'a pas d'archives en tous les cas, pour expliquer, les nazis ne se sont jamais arrêtés en Creuse. Ils ont traversé la Creuse et pour aller dans le sud de la France, mais ils ne se sont jamais arrêtés, il n'y avait même pas une commande en tour. C'est ce qui a permis d'ailleurs de créer dans la Creuse ce qu'on appelait des maisons d'enfants, qui étaient là des maisons spécifiquement juives, hein, organisées par les éclaireurs israélites de France. Pourquoi ? Je ne peux pas vous répondre. Et les Creusois ont été silencieux, la gendarmerie creusoise a été silencieuse, comme la gendarmerie sartoise. Moi, j'ai rencontré, grâce à la sortie de mon livre « L'enfance sans étoiles », j'ai rencontré le fils du sergent de gendarmerie de Parigné-l'Évêque qui me protégeait sans que ma nourrice sache qu'il me protégeait. Ayant compris que, moi, j'étais là, je suis arrivé, j'ai débarqué, j'étais un bébé, enfin, j'étais un petit enfant plutôt. Et en fait, j'ai appris beaucoup plus tard que il me protégeait plus exactement. Donc il faut aussi arrêter de dire tout et n'importe quoi. La gendarmerie a été exemplaire. Elle n'a pas toujours été. Elle a suivi aussi les ordres, c'est vrai. C'est tout à fait exact. Mais je mettrais, moi, la Sarthe en premier, l'Orne et la Mayenne. Géographiquement, évidemment, ça se tient. Et la Creuse.
Parmi tous les enfants qui ont été cachés, savez-vous combien ont pu retrouver les membres de leur famille à la fin de la guerre ?
À peine 1%. Rien. Quasiment rien. Puisque en France ont été déportés 76 000 juifs, dont 11 000 enfants. Il y a eu 30 000 enfants, je vous l'ai dit, qui ont été cachés. Mais il y a eu une partie de ces enfants cachés qui ont été déportés. Bon. Il y a eu 2500 rescapés des camps d'extermination. Donc, je vous laisse imaginer que quasiment rien. Mais vous soulevez une question intéressante et aussi humainement difficile. Lorsque je suis allé au rassemblement à New York, il y avait ce qu'on appelait des ateliers de travail. Et les gens parlaient, essayaient de sortir de ce malheur de leur cœur, de leur corps, de leur tête. Et nous avons entendu des choses terribles. Nous avons entendu, par exemple, une femme, je me souviens d'elle, qui disait aux autres, vous qui êtes tous là, évidemment, vous avez regretté, vous avez plus que regretté, vous avez souffert de ne pas revoir vos parents. Mais moi, ma mère est revenue, a-t-elle dit. Mais elle était morte dans sa tête. Il n'y avait pas un verre d'eau. Il n'y avait pas un morceau de pain, il n'y avait pas un jour de soleil ou un jour de pluie où elle ne parlait pas d'Auschwitz. Sa vie s'était arrêtée à Auschwitz. Et cette femme a dit, eh bien, quand elle est morte, j'ai été soulagée. Vous comprenez ? c'était aussi terrible pour ceux qui étaient revenus, qui avaient la mémoire atomisée par ce qu'ils avaient vécu, par l'horreur qu'ils avaient côtoyée. Et les enfants, leurs enfants, ont dû supporter cette tragédie sur leurs épaules, leur propre tragédie et la tragédie de leurs parents, ce qui était finalement qui est devenu insupportable.
Après la guerre, les enfants et les familles ont-ils gardé contact ?
97%, sinon 100%, mais en tous les cas, sauf ceux qui ont été maltraités, mais on peut dire 97%, c'est leur famille, c'est leur seconde famille, quoi. Et pour certains, c'est leur famille, puisque leur famille n'existant plus, c'est leur famille, oui, bien sûr.
Avez-vous facilité des retrouvailles ? Et si oui, quelle était l'intensité des émotions ?
Ah, ça, c'est une question qui me plaît beaucoup. Oui, oui, oui. Oui, parce que j'ai écrit un livre, après Les enfants cachés, j'étais plongé dans ce, comment on pourrait dire ça, dans ce sujet, et j'ai écrit un livre sur une page d'histoire aussi qui est peu connue, sur la résistance juive en France, non communiste. Je dis ça sans aucune arrière-pensée non communiste, c'est parce qu'il y a une résistance laïque, non communiste et une, bon, bref. Et il y a eu un cas extraordinaire en Savoie. Je vais essayer de faire court. La résistance du coin, d'un village, apprend que des bébés juifs ont été arrêtés et sont, entre guillemets, entreposés dans une clinique, dans un hôpital plus exactement. Et le patron de la résistance juive de ce village de Haute-Savoie organise le rapt des enfants. Des bébés, pas des enfants, des bébés. Et ils ne peuvent réussir à sortir qu'un seul bébé. Et en 1996, donc, il se trouve que par les réseaux, je retrouve le bébé, qui est devenu une jeune femme naturellement, qui a été sauvé. D'accord ? Vous me suivez ? Je l'interview. Et je me rends en 96 en Israël, où je vais donner une série de conférences. Et je ne sais plus comment ça se fait. J'apprends que la jeune femme qui a été sauvée, arrive en Israël. Et il se trouve que celui, le chef de la résistance juive, qui avait organisé son enlèvement, est aussi en Israël. Et je les ai fait se rencontrer. Ils ne s'étaient jamais connus, bien entendu.
Période de tourmente où ces gosses trimbalés de dortoir en attente ont pu être sauvés par des gens au grand cœur au risque de leur vie, traçant avec ardeur la voie du paradis. Hommage à cette France qui cacha sans répit, avec tant d'espérance, tous ses enfants meurtris.
Pouvez-vous nous expliquer comment des familles ont tenu le titre de juste et qu'est-ce que ça signifie ?
Les familles ne l'obtiennent pas. Ce sont des gens, il faut monter un dossier. Alors d'abord, qu'est-ce que ça veut dire ? Juste des nations ? C'est très biblique, hein, puisque si on sauve un enfant, on sauve le monde, enfin, etc. Il y a toute une dimension biblique dans les justes des nations. Et les familles qui ont caché des enfants ou des adultes ne le demandent pas. Il faut que ceux qui ont été cachés dans les familles nourricières, enfants ou adultes, montent un dossier, recueillent des témoignages, le dépose ici en France, enfin en Europe, dans des bureaux qui s'occupent de ça, les bureaux de Yad Vashem. Vous savez ce que c'est que Yad Vashem, hein ? Yad Vashem, c'est le grand musée de la déportation à Jérusalem. Si un jour vous allez à Jérusalem, il faut visiter ce Yad Vashem, puisque là, c'est le musée de la déportation. Donc Yad Vashem, il y a un bureau qui gère tout cela, qui fait une enquête. L'État d'Israël n'accorde pas le titre de juste des nations à n'importe qui sans avoir vérifié d'abord la véracité des témoignages. Et si les témoignages concordent, si tout fonctionne, à ce moment-là, soit à titre posthume si la personne est morte, soit si la personne est vivante, on lui décerne, il y a une manifestation, on lui décerne le titre de juste des nations. Et en Israël, il y a à Yad Vashem, il y a un parc, et à chaque fois qu'il y a une famille ou un individu qui devient juste des nations, on plante un arbre.
En conclusion, pensez-vous qu'il est important que notre génération se préoccupe de la mémoire de la Shoah, et pourquoi ?
Oui, à condition... Moi, je m'élève alors sur le fait que, d'un côté, il ne faut pas oublier, il ne faut pas mettre de dire, bon, on tourne la page, ça a eu lieu, hein, ce n'est pas Godefroy de Bouillon, ce n'est pas 1515, ce n'est pas on tourne la page, ça a eu lieu. Il faut toujours que ça soit présent dans notre société. Mais moi, là où je m'élève, c'est que ça doit être fait d'une manière pédagogique pour ne pas vous donner à vous, qui êtes jeunes, qui allez entrer dans la vie active, etc., et même aux autres, même à vos parents, etc., de leur donner l'impression de les culpabiliser. Il faut que tout cela soit fait avec pédagogie. Et je dois dire, malgré qu'il y a des personnes, des femmes et des hommes, qui s'occupent de cela, pour lesquels j'ai beaucoup de considération, qui ne le font pas avec la pédagogie que je réclame. Et donc, on peut comprendre, à un moment donné, que les Français ressentent une sorte d'overdose de la déportation. De par le monde, il s'est passé plein de choses depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, malheureusement. On a vu le Kosovo, on a vu le Rwanda, on a vu le Darfour, et que des génocides se poursuivent. Mais, deux choses. La première, c'était aussi un déficit de l'enseignement. Ici, dans le lycée dans lequel je suis, à laquelle je réponds, vous avez des enseignants qui sont, qui sont de vrais enseignants. C'est-à-dire qu'ils vont ils essaient de vous sensibiliser à ce drame. Sans pour autant, encore une fois, vous taper sur la tête à chaque fois. Mais aussi, il faut que, je disais tout à l'heure, qu'il y ait une pédagogie autour de cela. Mais malheureusement, le programme scolaire fait ou évacue le fait qu'on ne nous enseigne pas les génocides. Est-ce qu'on vous enseigne le génocide de 1915 des Arméniens ? Non. Est-ce qu'on vous enseigne le génocide des Indiens d'Amérique du Nord ? Ça a été un génocide, d'une certaine manière. Il n'y a pas eu de four crématoire, etc. De la même manière, on ne vous enseigne pas les génocides de certaines populations. Les génocides des Rwanda, je vous l'ai dit, du Darfour, etc. Il y a un déficit. Et c'est ça le problème. C'est un des problèmes, en tous les cas. C'est que il serait logique, il y a tellement de choses qui devraient être logiques, mais bon, il serait logique, en tous les cas, que l'on vous apprenne en même temps et en montrant chaque spécificité. Le génocide arménien était un génocide de guerre. Il y avait deux peuples face à face. Les Juifs n'avaient pas d'armée en 1940. Ils vivaient dans les pays d'accueil depuis des générations. En France, vous avez eu des Juifs qui sont arrivés à la fin du 1er siècle, qui ont créé des communautés telles que les communautés de Juifs provençaux, etc., etc., etc. Strasbourg, et j'en passe. Donc, je veux dire que c'était des femmes et des hommes qui faisaient partie de la communauté nationale. Certains même ne vivaient pas une vie de juif au sens religion, etc. Ils étaient juifs, ils savaient, ils étaient juifs, puis voilà, point. Hein? Et puis, un seul coup, on leur a dit, vous êtes juifs. Paf, l'étoile, hop, déportation. Donc, je ne sais pas si mon discours est clair, mais ce que j'essaie de vous dire, c'est que on ne vous enseigne pas les génocides, et la spécificité des génocides. Il n'y a rien de plus insupportable que l'amalgame. On ne peut pas faire l'amalgame. Le génocide arménien était un génocide particulier. Le génocide rwanda est un génocide particulier. Le génocide du Darfour est un génocide particulier. Le génocide, en ce qui concerne les juifs et les tziganes, est un génocide particulier, industriel, unique dans l'histoire de l'humanité. Thank you.
Issu d'une famille d'immigrés juifs, russes, Henri Borland est évacué à l'âge de 12 ans en 1939 vers le Maine-et-Loire. Là, il sera baptisé.
En juillet 42, il a alors 15 ans. Il est arrêté avec sa famille. L'adolescent survivra à Auschwitz.
Par sa voix, nous comprendrons à quoi les enfants cachés ont pu échapper.
Mais j'étais pas caché dans le Maine-et-Loire. J'étais réfugié. On était, c'est comme il y a eu des réfugiés qui ont quitté le nord de la France pour aller vers le sud. Ben nous, on a quitté Paris pour aller en Anjou. Et on était des réfugiés. Il ne faut pas confondre avec ceux qui se cachaient par peur d'être arrêtés parce que ou ils étaient juifs ou ils étaient résistants et combattaient le régime de l'époque du maréchal Pétain et de l'occupation allemande. Mais il faut bien comprendre que les arrestations de juifs, et en particulier de français, de juifs considérés comme juifs, puisque moi j'étais un cato, comme tous les petits catos du village qu'avaient été mes camarades de classe. Mais ça a commencé un peu avec la rafle du Vel'd'Hiv, c'est-à-dire à partir du 16 juillet à Paris. Nous, on avait un jour d'avance sur eux, et c'est peut-être aussi pour ça qu'on ne savait rien. Mais il n'y avait pas les informations qu'il y a aujourd'hui. Peut-être que la rafle du Vel'd'Hiv, elle a été connue dans le reste de la France que plus tard et pas le jour même.
Lorsqu'on est venu vous arrêter, est-ce que vous vous attendiez à vivre ce que vous avez vécu à Auschwitz ?
Ben non, pas du tout, non, bien sûr que non. On ignorait l'existence du camp. Sur le moment, ça a été une surprise parce qu'on ne s'attendait pas à ça. On a pensé qu'on nous prenait pour aller travailler. Et le fait qu'on arrêtait les gens entre 15 et 50 ans, on disait ils ont besoin de manœuvres. Et c'est vrai que pendant la guerre, on entendait beaucoup parler des demandes de travailleurs pour les envoyer en Allemagne.
À Auschwitz même, les conditions de travail
Je les ai vécues comme tout le monde, c'est-à-dire que je trouvais ça épuisant. Que c'était des travaux qui étaient très au-dessus de nos forces, et puis qu'on savait que c'était un camp d'extermination, qu'on faisait ça pour nous épuiser, pour nous faire mourir. C'était pas un mystère là-bas, parce qu'on nous disait, on nous venait des discours, on nous disait ça dès le début, ne vous faites aucune illusion, d'ici aucun de vous sortira vivant, d'ici la seule sortie, ce sera par la cheminée. Par la cheminée des fours crématoires. Donc, dans le camp, on ne prenait pas la peine de mentir. Les mensonges étaient à l'extérieur, mais dans le camp, ils n'en avaient rien à faire, puisque, de toute façon, on n'était pas appelé à rester en vie et à sortir, raconter à l'extérieur ce qui se passerait. Donc, dans le camp, on ne se cachait pas. On savait que... D'ailleurs, les commandos qui construisaient les fours crématoires, les commandos, le matin, quand on rassemblait les commandos, le chef du commando, le capot, il appelait commando crématorium 2, commando crématorium 3. On rassemblait les gens, donc on savait, ceux qui travaillaient là savaient qu'ils construisaient un crématorium. Donc c'était pas caché là-bas, il n'y avait pas de mystère. Et puis on nous répétait à chaque fois que on nous tenait des discours que. On sortirait par la cheminée, donc c'était pas une surprise. La surprise, ça a été de survivre. Et quand il y a eu l'arrivée que les armées russes approchaient et qu'on les a évacués d'Auschwitz et qu'on a vu qu'on partait loin des chambres à gaz et des fours crématoires, là on a commencé à se dire peut-être on a une chance. Et c'est vrai que dans le camp où on est arrivé le dernier, c'était très très dur, mais il n'y avait pas de crématorium, il n'y avait pas de chambre à gaz. Et le crématorium où on amenait les morts du camp, c'était à Birkenau, mais c'était pour brûler les cadavres. C'était pas. Tu vois, c'était plus l'extermination. Il y avait beaucoup de morts, bien sûr, parce qu'ils nous tabassaient, puis on crevait de faim, mais et on ne nous soignait pas quand on était malade. D'un coutume de parler de ceux qui avaient moins de 18 ans. Il y en a eu plus de 11 000 et les survivants sont de l'ordre d'une centaine. Ben, des 6 000 de 42, je vous l'ai dit, déportés à Auschwitz, c'est-à-dire en camp d'extermination. Parce qu'il y en a d'autres qui ont été dans d'autres camps. Je sais qu'il y en a qui ont abouti à Auschwitz après être passés à Kosen, par exemple, des camps de travail ou des camps de Haute-Silésie. Mais à Auschwitz même... comme je l'ai écrit dans mon livre, Donc, à partir du mois de juillet 1942 jusqu'à la fin de l'année 1942, c'est de l'ordre de 6000 et il n'y aurait pas d'autres survivants. Donc, ne pas croire que être jeune, c'était un atout dans les camps d'extermination. C'est tout le contraire. Voilà, donc, pour les jeunes, la mortalité a été plus grande. Alors, imaginez les jeunes en période de croissance, c'était. Si vous pensez qu'on n'a pas mangé un fruit pendant toute cette période, qu'on n'a pas eu une alimentation en protéines, qu'on a eu une carence en vitamines, c'est très étrange, mais les médecins, ont fait des rapports là-dessus, malgré ces avitaminoses et malgré ces régimes carencés en protéines et malgré le fait qu'on est exposé aux intempéries. Très froid l'hiver, très chaud l'été, déshydraté parce qu'on n'avait pas la possibilité d'aller boire alors qu'on faisait des efforts sous le soleil.
Ont participé à la réalisation de cette émission Antoine, Audrey, Lise, Pierre, Tristan, Zachary, Lycien de première L, Assis et Le Guillaume.
Consacrée à la Shoah vous est proposée par le lycée Paul Scarron de Ciel-Guillaume et Fréquence-Sillé. Elle est soutenue par le Mémorial de la Shoah, la région des Pays de la Loire, le rectorat de l'Académie de Nantes, dans le cadre du volet Éducation à la tolérance et à la paix du programme d'action éducative régionale.